Nous sommes le lundi 5 octobre 1789, tôt dans la matinée. Comme chaque jour, les marchandes se sont rassemblées au marché de Paris. Les halles sont pleines comme d'habitude. Mais aujourd'hui, l'atmosphère est chargée. Des mots grossiers s'échangent, pleins de colère et d'indignation. Bien sûr, tout le monde ici a entendu parler des célébrations excessives au château de Versailles. Et aujourd'hui, personne n'a envie de se rendre à son travail. Assez. Les voix se font de plus en plus fortes. Ceux de Versailles n'ont aucune idée de notre misère. Si le roi et sa reine vivaient ici avec nous, au milieu de nous, il y aurait sûrement assez à manger. Parmi les femmes du marché, il y a Louison, une jeune vendeuse de fleurs. Elle a un tambour de soldat et elle tape en cadence dessus. « Debout, debout » crie-t-elle. Et les femmes la suivent. Ensemble, elles marchent jusqu'à la mairie de Paris. « Nous voulons du pain !» crie la foule. Mais le maire bailli refuse de les écouter. Puis les femmes en colère pénètrent de force dans les salles des témoins de l'hôtel de ville. Un fonctionnaire est attaqué à coups de pied. Et puis les femmes s'arment. Elles prennent des canons, des fusils et d'autres armes. « Suivez-moi !» crie Louison en tapant sur le tambour. « Nous voulons rendre visite à ces messieurs dames de Versailles. » Et les femmes suivent le tambour par centaines. Bientôt, elles sont plus nombreuses. De partout accourent des ménagères, des jeunes filles et des domestiques affamés, qui avaient déjà fait la queue à l'aube pour du pain et de la viande devant les magasins encore fermés, et bientôt les quelques centaines se transforment en plusieurs milliers. Armés de fusils, de piques, de sabres et de haches. Versailles festoie, Paris meurt de faim, crie la foule en colère qui s'approche inexorablement de Versailles. Encore et encore, Versailles festoie, Paris meurt de faim. Versailles festoie, Paris meurt de faim. Ces cris enflamment la détermination des femmes à dire ce qu'elles pensent au roi et à sa noblesse fatiguée du monde. Il faut 4 heures à la foule en colère pour arriver au palais royal. Là-bas, ils ont depuis longtemps entendu parler du cortège de gens enragés et se sont préparés en conséquence. L'avant-cour du château est protégée par les soldats des régiments de garde du roi, tandis que le régiment suisse sécurise les portes, les escaliers et l'intérieur du château. Tendus, les gardes attendent l'arrivée de la foule en colère, lorsqu'ils réalisent soudain que le cortège est composé principalement de femmes et d'enfants. La tension retombe sur les soldats. Certains rient, d'autres plaisantent, d'autres encore déposent leurs armes et tous regardent comme hypnotisés la foule de femmes qui ne cesse de grandir. À présent, elles sont environ 6000 à s'être rassemblées devant le château. Contre toute attente, les choses sont plutôt paisibles. Les soldats partagent leurs provisions avec les femmes. Dans un premier temps, 5 femmes et un homme se rendent à l'Assemblée nationale sur la place du Palais Bourbon où ils présentent leurs revendications aux députés présents. Les membres de l'Assemblée nationale ne se sentent toutefois pas concernés par les préoccupations de ces femmes et les dirigent vers le roi. Les émeutes et les protestations rythment la nuit que les femmes passent devant le château. Entre-temps, plusieurs soldats ont rejoint les femmes. Ils comprennent leur situation, ils comprennent combien la vie est devenue difficile dans les villes, tous ces gens sans travail, la famine, la lutte quotidienne pour la survie. Et puis il y a les aristocrates, ici à Versailles, qui enchaînent les fêtes, vivent dans le luxe, et qui ne remarquent pas toute cette misère des villes. Les gens ont passé une nuit terrible devant les portes du château. Ils sont frigorifiés et la pluie de ce matin contribue à rendre l'atmosphère de plus en plus tendue. La foule en colère les pousse contre la porte de l'avant-cour du château. Ils forcent l'entrée. De nombreux soldats ont déjà quitté les lieux pendant la nuit. En criant, la foule avance et force les soldats du régiment suisse qui sont encore présents à reculer. 2 serviteurs perdent la vie dans les affrontements lorsque la foule en colère entre enfin dans le château. La panique s'empare de Marie-Antoinette. Elle rassemble rapidement ses enfants, s'enfuit par l'aile latérale du palais et se précipite vers le bâtiment central. Elle y trouve son mari, le roi, complètement bouleversé et tremblant de peur avec le cercle de ses conseillers. Elle se jette dans ses bras. Mais ni le roi, ni ses conseillers n'ont de réponse, ne savent quoi faire maintenant. Des cris de guerre retentissent dans les escaliers, où le régiment suisse tente de repousser les intrus. C'est Marie-Antoinette, qui décide de ne plus avoir peur. Elle prend son plus jeune fils dans ses bras et se dirige vers le balcon. Stupéfait, les hommes la suivent du regard. Mais comme si la reine l'avait su, les Parisiennes devant le balcon réagissent de façon inattendue lorsqu'elles aperçoivent leur reine sur le balcon. La vue de la femme avec l'enfant dans ses bras les touche. La colère se transforme en enthousiasme. Vive la reine! Vive le prince! Bientôt, tous crient à tue-tête. Vive la reine! Les tambours et les clairons résonnent de la rue à Paris et c'est la garde nationale, subordonnée à l'Assemblée nationale qui vient d'être fondée. Elle est dirigée par Lafayette, le général qui a combattu pour la liberté et la démocratie aux côtés des colons lors de la guerre d'indépendance américaine. Les citoyens soldats, qui forment la garde nationale, occupent les cours, les escaliers et le palais et le général Lafayette s'approche de la reine, prend place à ses côtés sur le balcon et salue la foule enthousiaste. Et la foule est en délire, pleine d'enthousiasme. L'euphorie se répand. Le général respecté, extrêmement populaire auprès du peuple, à côté de la reine. Maintenant, le roi a également retrouvé son calme. Bien qu'il reste à l'arrière-plan, il monte maintenant sur le balcon et salue timidement la foule, regardant d'un air inquiet sa femme Marie-Antoinette et le général Lafayette se faire acclamer par la foule. Lorsque le roi promet une livraison de nourriture à Paris, la situation se calme. Il accepte finalement de signer les décrets de l'Assemblée nationale et d'abolir les privilèges de la noblesse. Des chariots et des chevaux sont amenés. Le roi et la reine doivent retourner à Paris. Certains carrosses se remplissent, car maintenant il y a aussi beaucoup de seigneurs et de dames de la cour qui veulent rentrer à Paris. Enfin, le cortège se met en marche et, le 6 octobre en début d'après-midi, la marche du retour commence avec la famille royale. Une acclamation incroyable accompagne le train pendant 6 heures. Il y a une atmosphère de fête foraine. Les femmes dansent, avec les soldats, les ouvriers. Le cortège est mené par la garde nationale. Les soldats citoyens ont des miches de pain sur la pointe de leurs baïonnettes et escortent des chariots remplis de pain et de farine. Et même les soldats du palais et la garde royale suisse accompagnent cette procession. C'est Lafayette lui-même qui escorte le carrosse du roi et sa cour jusqu'à Paris. Des centaines de membres de l'Assemblée nationale accompagnent également le cortège. Bien qu'il pleuve encore et que le sol soit donc boueux et glissant, la foule est de bonne humeur et chante « Nous amenons le boulanger, la femme du boulanger et le fils du boulanger ».